venez à la Radio Piquet.
Quel beau jingle. Alors hier après-midi, les enfants de l'école Guérin qui sont venus faire les tapes sur la place. Et on a fait un peu de radio avec eux et ils ont fait quelques jingles, donc on vient d'en entendre un. Pas mal, ça va pouvoir réalimenter la radio. Donc on reprend le plateau, on est toujours en direct sur Radio Piquet, de la kermesse des Piquet. On est samedi 28 septembre. Et bien on va reprendre avec Jean-Claude qui tout à l'heure nous disait que la sécurité sociale de l'alimentation, apparemment les premières discussions auraient eu lieu dans les rues ici, rue Navarin, rue Bugeaud.
Non, pas tout à fait comme ça, mais je vais te le dire comment. En fait, si tu veux, je te disais tout à l'heure que on avait mené une recherche-action, mais bon, on a une réflexion longue sur l'accès à l'alimentation parce qu'on considère qu'on ne peut plus se revendiquer d'une agriculture durable si l'alimentation n'est pas durable derrière, donc si on ne nourrit pas tout le monde. Donc ça, c'est une interrogation permanente aujourd'hui dans les gens de notre réseau qui est en train de s'étaler d'ailleurs, puisque j'étais vendredi à la conf à Paris en train de discuter de ça en formation avec l'ensemble des paysans du réseau. Donc on voit bien que c'est une question qui est très prégnante. Et elle vient déprimer le milieu agricole qui est déjà très déprimé par la production et le mode de production. Je ne vous fais pas le dessin, vous savez tous, vous entendez tout ce qui est question des bas revenus, du suicide, etc. On en parle en boucle, bon, j'en parle plus parce que je trouve que c'est trop, mais bon, le milieu agricole est très déprimé. Et on a quelques-uns d'entre nous qui se portent un peu mieux parce qu'ils ont des revenus un peu plus conséquents et qu'ils s'en sont emparés des questions environnementales et que donc ils peuvent un peu se gargariser de faire mieux que les autres. Et puis tout d'un coup, tu viens leur dire, ouais, mais mec, oh, t'es peut-être bon sur là-dessus, mais t'as vu que tu ne nourris que 5%, 8% de la population avec ton truc en bio local. Là, tout d'un coup, t'as la gueule du mec en face, il dit, non, des lieux, mais moi, je dormais bien jusqu'à présent, mais ce soir, je vais pas encore trop bien dormir avec ton truc. Et c'est général, cette question-là de la démocratie alimentaire, de la justice sociale, de manière générale, elle nous était totalement étrangère. Il n'y a pas un paysan qui réfléchit à ça. Et donc, ouais, tu te dis, mais comment je vais faire pour parler de ça sans que tout le monde tire une tronche pas possible devant moi. Et il y a quoi, 3-4 ans maintenant, il y a Ken Loach qui a sorti un film, moi, Monsieur Black, ou je sais pas comment. Daniel Black. Et on m'avait dit, tiens, il y a une scène de distribution d'aide alimentaire dans le film qui est terrible. Va voir ce film-là, tu vas voir, ça va te parler, quoi. Il se trouve que Ken Loach, évidemment, comme tout le monde ici, on l'a têté dans tous les sens, et que j'en suis gavé, quoi. Ken Loach, il refait le même film, et surtout, il n'est pas le seul, il nous raconte notre malheur. Mais notre malheur, moi, je le connais, j'ai pas besoin qu'on me le raconte, le mien, au bout du compte, je le connais mieux que lui, certainement. Alors, je trouve que le travail qu'il fait est remarquable, mais au bout d'un moment, il ne fait que rajouter une couche à mon propre malheur, parce qu'il me met tout le temps devant, j'avais l'impression que j'en étais sorti, ben non, regarde, il y a encore là-dessus. Donc on est venu voir le film, et on vient pas souvent, ben, je vous ai pas dit, mais j'habite à une heure d'ici, et on vient pas souvent au cinéma à Brest, et on s'était dit, on va en voir deux, quoi. On avait regardé sur l'affiche, il y en avait un autre en dessous. Et alors, à la sortie du film de Daniel Black, là, on voyait la tronche, alors, soit tu pleures, soit tu te mets en colère. C'est ça à peu près le principe des films de Ken Loach. Et on voyait bien, les personnes qui sortaient de la salle, il y en a peut-être qui sont là d'ailleurs, qui étaient tout énervés, et d'autres qui tiraient la tronche, qui avaient du mal à se regarder dans les yeux, parce que tu avais... Et puis j'étais en train de me dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces larmes et qu'est-ce qu'on va faire de ces colères-là? Et tu vois, c'est pas, on va pas rester pleurer et se mettre en colère comme ça, c'est pas politique, ça fait... Et qu'est-ce qu'on était allé... On était allé bouffer une frite, et qu'est-ce qu'on était allé voir comme film après? Eh bien, on est allé voir un documentaire qui s'appelle La Sociale, qui est un documentaire sur la naissance de la sécurité sociale de santé après la guerre, dans lequel intervient d'ailleurs Bernard Friot à plusieurs reprises. Et là, tout d'un coup, tu sors de la séance de cinéma et tu te dis, eh bien voilà, ce que je vais faire de ma colère et de mes larmes, je vais faire la sécurité sociale de l'alimentation. Et là, tu appelles Bernard Friot, tu lui dis, tiens, si là, c'est quoi? Et c'est parti. Et c'est comme ça que depuis on réfléchit à ça, tu vois, et on a rencontré des tas de gens évidemment qui étaient dans ces... toi t'es jamais tout seul dans ton coin, hein, donc on a rencontré des gens d'Ingénieurs sans frontières et tout ça. Et c'est vraiment une nécessité, socialiser l'alimentation aujourd'hui. Si on n'y arrive pas, je peux vous garantir, vous ferez toutes les COP alimentaires que vous voudrez, et même à Kerlern avec toute la bonne volonté qui sera la leur, si on n'arrive pas à une étape supérieure, à un horizon plus loin que le quotidien, on va tous mourir chacun de son bord. Donc, c'est pas la sécurité sociale dont on va parler, c'est pas le seul moyen de socialiser l'alimentation. Hein. Il y a une réflexion à mener sur l'entreprise de production et de transformation et de distribution. Est-ce qu'elle doit appartenir à quelqu'un en particulier et servir de revenu à quelqu'un et de rente à quelqu'un, quoi? Ou est-ce qu'elle doit être, c'est un peu ce que disait Catherine à l'instant, la propriété de tous ceux qui mangent, quoi. Est-ce que la terre, par exemple, moi j'ai été obligé d'acheter une partie de la terre que j'avais là pour tout un tas de raisons, mais j'en étais, ça me rendait malade d'être obligé d'acheter de la terre, puis d'être obligé de la revendre 15 ou 20 ans après quand tu pars ta retraite, c'est pas normal. C'est pareil pour les chaînes de transformation et de distribution. Donc ça, c'est une réflexion sur ce que c'est qu'une entreprise. Est-ce que l'entreprise a pour but de donner du profit à son propriétaire? Bon, on va me dire, mais ça existe déjà, c'est l'économie sociale et solidaire. Bah écoutez, si vous êtes satisfait de la manière dont fonctionne aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, je ne suis pas prêt de boire un coup avec vous. S'il y a une autre façon de voir les choses, c'est le service public, la gratuité de l'alimentation, le service public, un grand service public de l'alimentation, comme on a un grand service public de l'enseignement. Moi, c'était cette idée-là qui était la mienne, par exemple, avant qu'on rencontre Bernard Friot et que Bernard me dise « Mais non, ça ne marchera pas pour telle et telle raison. » On avait réfléchi et du coup, la troisième idée, c'est ça, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Comme a été bâti dans des conditions particulières qu'il faut avoir à l'esprit, comme a été bâti la sécurité sociale de santé après la guerre, pour le bénéfice des populations les plus pauvres, voilà, disons les mots comme ça, qui étaient en général quand même la moitié de la population, on peut dire ça de ça. Eh bien aujourd'hui, voilà, il faut qu'on sait, sur les 10 ans qui viennent, peut-être même sur les 6 mois, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. Qui aurait dit l'année dernière, à cette époque-ci, qu'il y avait des ronds-points occupés, comme on l'a, là, je viens de passer encore place de Strasbourg, il y a encore des gens sur les ronds-points. Qui aurait dit l'année dernière que ça allait arriver une chose pareille? C'était impossible, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et quand demain va arriver, il faudra qu'on soit prêt. Il faudra qu'on puisse arriver sur la table avec cette sécurité sociale de l'alimentation. Voilà comment nous voulons tous nous nourrir, et vous n'aurez pas le choix. Comme les gens en 1946 ont été obligés d'avaler tout le travail qui avait été fait pendant 100 ans avant autour des questions de santé par les syndicats et les associations de travailleurs depuis la moitié du 19e, grosso modo. Voilà, en gros, tu vois, donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure.
Chouette. Du coup, est-ce que peut-être tu, Catherine, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que... Parce que donc c'est au travail dans l'association Réseau Salariat, c'est pas quelque chose de encore fixé avec tout, comment ça va se passer. Qu'est-ce qui fait peut-être débat? Qu'est-ce qui...
Alors bon, moi je suis depuis quelques années à Réseau Salariat, mais c'est la première fois, je crois, qu'on travaille avec des interlocuteurs... en gros des intellectuels, quoi. Il y a vraiment des gens de terrain, du coup, des vrais. Ouais.
Oui, c'est... Merci.
Non, mais je veux dire, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, des vrais travailleurs, je veux dire, qui produisent des. Enfin, c'est vraiment en lien avec le travail, je trouve, concret, quoi. Et c'était pas si courant, je trouvais, dans le Réseau Salariat. C'était un écueil, quoi. Et donc là, avec toutes les différentes assos, enfin, structures. Il y a une réflexion qui est assez, c'est Jean-Claude qui est assez longue. Donc l'idée, c'est d'avoir un, c'est pas des bons alimentaires, mais une somme d'argent tous les mois qui est, là pour l'instant en tout cas, on est autour de 150 euros. Et après, donc les gens auraient 150 euros par mois pour aller acheter des produits qui sont conventionnés, quoi. Et alors après, c'est la grande question, c'est quels produits sont conventionnés. Donc là, c'est vraiment au travail, c'est pas du tout défini, on creuse la question, quoi. Et puis l'idée aussi, c'est que donc dans les entreprises, il y a une cotisation. Alors là, c'est pas très clair sur l'histoire du financement. Soit c'est une partie de la valeur ajoutée, soit c'est une cotisation, tout ça c'est en réflexion. En tout cas, il y a une partie de l'argent des entreprises qui serait versée à une caisse. Autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Et voilà. Et cette caisse gérerait donc la redistribution des 150 euros, là, mais aussi les financements des agriculteurs, quoi. C'est aussi un soutien à la culture paysanne. Voilà. Bon. Le gros principe, c'est ça, quoi.
Donc je rappelle, il y a un micro dans les mains de Thibaut qui est derrière moi. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, vous pouvez demander à avoir le micro ou quelque chose à dire. Et peut-être autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, moi je découvre un peu. Ouais. je découvre un petit peu cette CIVAM et ce projet de sécurité sociale alimentaire. Et d'ailleurs, je pense que quand je sais pas pour les autres en fait, mais moi je voyais pas exactement à quoi j'étais invité comme plateau. Donc c'est super, hein, c'est très bien, c'est une bonne surprise. Moi je dirais juste que si il y a peut-être un écart, enfin un grand écart entre parler de la bouffe sous l'angle de la sécurité sociale alimentaire et puis parler d'organisations comme nous qui faisons des trucs en gros pour se faire plaisir quoi. Enfin c'est clair que on n'a pas il y a toujours la question de ce qui est militant, ce qui est politique dans notre alimentation. Et moi, j'ai déjà entendu, par exemple, dans une AMAP, on est militant parce qu'on fait une AMAP. Et finalement, non. Enfin, le militantisme, c'est quand même quelque chose de particulier. On n'est pas militant juste parce qu'on fait un truc, quoi. Enfin, c'est, je sais pas si je suis clair. En tout cas, pour faire un... Moi, je dirais juste que c'est des choses qu'il faut pas opposer, quoi. Et je pense qu'on peut continuer à acheter des fruits secs dans les coopératives et réfléchir à une généralisation. Enfin, même cette question-là, enfin, c'est un chantier tellement énorme, en fait. C'est super, mais je dirais presque qu'on en est au balbutiement, quoi. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, je voulais juste dire ça.
Bah, c'est la question aussi de maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait, mais d'avoir aussi une vision de qu'est-ce que tu veux pour l'avenir qui peut être très proche d'ailleurs, moi j'espère. Mais il faut les deux, je pense. En fait, on fait tous avec le monde tel qu'il est, et on essaye par une AMA, par ceci, par cela et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un projet plus global, parce que autrement on sait qu'on change pas, en tout cas le monde capitaliste continue à tourner avec les AMAP, quoi. C'est... Mais ça n'empêche que ça veut pas dire qu'une AMAP c'est nul.
En fait, la question c'est de savoir si l'AMAP ou n'importe quelle autre initiative qui se dit une alternative, qui se dit une solution de rechange, en fait c'est pas une solution de rechange, quoi. La question c'est de savoir si ces initiatives-là, elles endorment pas un peu, elles anesthésient pas un peu des revendications politiques. Quelque part, ce serait dangereux de garder des AMAP si... Et d'ailleurs, c'est un peu le cas. Enfin, les AMAP, c'est quand même effectivement un niveau social élevé. C'est des classes sociales privilégiées qu'on retrouve statistiquement. Enfin, voilà, juste sociologiquement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Claude. C'est assez dangereux, en fait, de se dire « je fais ça, donc c'est bon, quoi ». Moi, j'ai trouvé la solution. Si le monde y tourne mal, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des autres, quoi. On se débarrasse on s'allège la conscience, en fait, voilà, en faisant un truc comme ça, ce qui est absurde. Je veux dire, personne n'est coupable, ni... éventuellement, on est victime du système, mais on n'est pas... Voilà. Et après, libre à chacun de réfléchir, de militer, de participer à des débats, et à... voilà, ça... Il faut pas oublier ça, quoi. Voilà.
Hélène et Baptiste, vous voulez dire quelque chose ? Baptiste ?
Oui, moi je pense que ce qui est très très important, c'est remettre au centre l'acte politique qui est de se nourrir finalement. Qu'est-ce que ça représente ? Parce que au final, on est dans. Mais ça a déjà été dit, c'est sous-jacent, c'est que c'est. On paye pas pour respirer. Pourquoi on paierait vraiment pour manger, mis à part pour dédommager celui qui travaille pour ça. Et l'idée, ce serait peut-être aussi de réussir à reconnecter de l'importance de l'acte de manger et de l'acte de produire à manger par rapport aux gens qui en sont éloignés. Enfin, c'est peut-être un peu confus dit comme ça, mais en gros, remettre des ponts entre l'urbain et le rural, on se rend compte qu'on ne se connaît pas, finalement. On est pourtant pas loin, hein, là... Alors Jean-Claude disait qu'il a une heure de route. Nous, on a mis quoi, une demi-heure pour venir ici. Et quand on arrive là, vraiment, nous, on se sent pas chez nous. Enfin, pas, je parle pas de la kermesse, mais je parle de la ville. On est vraiment pas dans notre univers. Et je pense qu'un urbain qu'on met chez nous doit pas avoir les mêmes codes non plus. Et ne pas comprendre les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ouais, remettre ça au cœur de la vie, ouais, je pense que c'est important.
Je vais rebondir un petit peu sur justement le fait d'être... de ne pas se connaître et l'initiative qui a pu se faire dans les quartiers là, sur les cabas des champs, elle est partie un petit peu aussi de ce constat-là finalement que les gens ne se connaissaient pas, que les gens de la ville ne connaissaient pas forcément, ou ne connaissaient plus d'ailleurs, ils ne connaissaient plus forcément le milieu urbain, parce que on est de la ville, mais on n'est pas de la ville depuis des générations. Il y a des générations, des gens qui ont leurs grands-parents qui étaient agriculteurs, mais qui se retrouvent en ville, finalement, mais qui se sont éloignés, finalement, de toute cette connaissance de la terre. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que quand on a fait venir ces agriculteurs-là, ils ont été aussi très curieux, très impressionnés. Certains ont dit, mais j'ai jamais mis les pieds dans un quartier, quoi. Donc, ils sont arrivés les premières fois avec des grands yeux. Je connais Kereden par les faits divers, par des histoires, par une réputation. Mais finalement, c'est calme. Il y a de la verdure. Les gens sont sympathiques. Combien vous payez de loyer dans votre... Ah oui, il y a 16 étages quand même. Et puis quand on... Ah, et puis il y a même certains agriculteurs qui ont été chez des gens qui ont vu une vue sur la rade, parce que je crois que dans les quartiers, je crois que c'est les plus belles vues qu'il y a de tout Brest. Vous êtes au 16e à Carré-l'Herme, ouais, belle vue, je peux vous assurer, vous voyez la rade, vous voyez jusqu'à Crozon, c'est assez magnifique. Et toute cette connaissance-là, elle est hyper importante pour nous aussi. Et puis je rebondis aussi sur le fait du militantisme, et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que je pense que tous ces petits riens font vraiment ce grand tout de faire avancer. Et peu importe l'ampleur, c'est aussi éveiller des consciences, et c'est pour nous, en tout cas, au centre social et avec les bénévoles avec lesquels on travaille. On en parlait avec Jean-Claude tout à l'heure, ils n'ont pas conscience, le groupe n'a pas forcément conscience, enfin, un certain nombre de personnes dans le groupe n'ont pas forcément conscience de faire quelque chose de, finalement, qui est assez novateur, qui est assez engagé, qui fait bouger les choses, qui fait bouger les lignes. À force de discuter et de se faire connaître un petit peu, on a participé à pas mal de rencontres avec le CIVA, mais même au niveau national, ça égrène, quoi. À Toul, par exemple, ATD Carmonde s'inspire de ces initiatives. Alors, il y avait effectivement le système des AMAP qui existe depuis quelques temps, mais on a essayé de réinventer, nous, au niveau du Cabas des Champs, un nouveau système qui était peut-être moins contraignant, de s'adapter justement à une catégorie sociale, à aussi, j'aime pas le mot rééduquer, mais enfin, en tout cas, j'aime pas du tout, mais enfin, en tout cas, faire prendre conscience de choses que peut-être les gens étaient vraiment très éloignés par un certain nombre de critères qui leur est propre, mais de reprendre conscience de ça, et finalement d'avoir cet acte militant. Ils n'ont pas forcément conscience, parce qu'ils n'ont pas forcément confiance aussi en eux. Donc se dire, bah oui, je fais avancer à la société, mais bon, est-ce que c'est vrai? Et je reprends souvent cet exemple, un exemple qui avait été donné par lors de notre première rencontre avec les agriculteurs, parce qu'on avait monté ça aussi avec un groupe qui s'appelait le CKRSA. Donc ce sont des bénéficiaires du RSA qui se réunissent une fois par semaine sur Kereden, et puis partagent leur passion, qui essaient d'avoir améliorer leur vie sociale, et puis y rencontrer, échanger, etc. Et donc l'agriculteur avait mis en évidence effectivement qu'il avait besoin de nous, et mis en évidence aussi les problématiques que pouvait avoir l'agriculture. Et que finalement, au niveau social, ils se retrouvaient, quoi. Parce que, peut-être avec plus d'hectares, plus de verdure autour d'eux, et plus de terrain, mais finalement, ils étaient aussi parfois dans la même misère sociale. Et un des gars qui dit, bah, moi, si on m'avait dit un jour qu'avec mon RSA, j'aurais sauvé un agriculteur, bah, je n'aurais pas cru, quoi. Et j'ai trouvé cette phrase assez, assez intéressante, justement, dans cet acte que finalement, bah, dans tout milieu, en fait, on peut agir. Et après, il faut s'adapter, effectivement, à tout. Tout ne marche pas n'importe où, quoi. Voilà, c'était un peu... je trouvais que...
Tu disais juste, il y a des choses qui font bouger les lignes. C'était ça, la question, quoi. Est-ce que ça fait bouger les lignes ou pas? Si c'est construire des petits trucs isolés qui, finalement, ne font que renforcer un système qui va très bien, qu'une classe moyenne qui se porte très bien, ça sert à rien. Enfin, voilà, et surtout, c'est même contre-productif, parce qu'en plus, c'est des gens qui, éventuellement, peuvent se... gargariser d'avoir trouvé de eux changer le monde, quoi.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup tu fais le boulot à ma place. D'habitude c'est moi qui tiens ce rôle là alors ça me va bien pour une fois que tu le dis. Je vais dire le contraire. Non, mais insister sur ce que vient de dire Fred, t'as raison, je suis très conscient de ça. Alors, j'étais de ceux qui ont créé le magasin fermier, il y a 25 ans maintenant, un magasin fermier en plein centre Finistère. C'était le troisième en France. Donc, il y avait un à Rennes et un à Lyon, et on en a créé un en 180 habitants dans le centre Finistère. Alors, on pourrait s'en gargariser, tu vois, réclamer tout ça. Il fonctionne encore, on a créé de l'emploi et tout, hein. Et on a aidé, je sais pas moi, peut-être une trentaine de paysans entre-temps à s'installer avec ce truc-là. Mais on en connaît les limites, hein, on est bien placé pour en connaître les limites. Mais c'est aussi à partir de ça que les réflexions qu'on a amenées aujourd'hui, là, et dont on parle sur la sécurité sociale alimentaire ou sur le service public de l'alimentation, c'est à partir de ça qu'on peut en parler. Et comme vous, demain, je suppose que quand vous aurez pris un peu de recul sur ce que vous faites, ou même déjà en le faisant, on sera amené à discuter de ça, quoi. Tu parlais de la Louvre tout à l'heure. Nous, on a été contactés, enfin, en l'occurrence, moi, parce que mon nom était sur Internet associé à ce projet-là, accessible, dont je parlerai peut-être 2 minutes en plus tout à l'heure, précisément pour vous dire ce qu'on a fait là-dessus. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on voudrait bien parler avec vous, c'est juste avant d'ouvrir les magasins. Et leur crainte, c'était celle que tu exprimais, quoi, de ne nourrir que la classe moyenne, des gens qui ont... On dit ça... je le redirai à un autre moment. Mais de nourrir des gens qui sont servis, quoi. Et on leur a dit tout de suite, oui, c'est vrai, le risque, il existe. Et on peut discuter ensemble pour voir, non pas comment il faudrait faire autrement, parce qu'on n'a pas des recettes, hein, c'est pas parce que j'ai sur ma ferme, je sais pousser les vaches, que je sais comment il faut... Je sais pas autre chose que ça. Mais ce que je sais, c'est que comment j'ai pu améliorer le système pour que les vaches se portent mieux et que mon revenu soit meilleur. Et que je peux discuter avec toi, je peux discuter avec Fred, de comment on va ensemble améliorer notre alimentation, parce que moi je mange aussi. Hein. Et il y a pas mal de paysans aujourd'hui à l'aide alimentaire. Et les paysans ne sont pas ceux qui mangent le mieux, croyez-moi. Hein. On est quelques-uns à bien manger, ça c'est le cas chez moi. Mais, je ne donne pas l'adresse. Mais il y a quand même pas mal de paysans qui sont aussi victimes de maladies alimentaires, qui sont à l'aide alimentaire, qui vont en général dans un canton voisin, parce que c'est assez stigmatisant, enfin vous connaissez. Ou vous ne connaissez pas, d'ailleurs l'aide alimentaire, la plupart du temps on ne le connaît pas. Donc la sécurité sociale de santé, on pourrait dire de manière provocante qu'elle est née à Brest, par exemple, tu vois, parce qu'à la fin du 19e, à Brest, à l'Arsenal, il y avait une énorme coopérative alimentaire. À Morlaix, à Morlaix, il y avait exactement 1500 personnes qui cotisaient à une caisse de alimentaire. Et il n'y avait pas d'autre moyen, si tu veux. Quoi. Il y avait pas les revenus, tu te les faisais toi-même. Puis les gens étaient syndiqués, ils se battaient autrement. Et puis là, c'était pas la classe moyenne, hein, c'était les prolos de base. Quoi, ceux qui... il y avait une autre éducation. Bon, ça, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, mais la fin du 19e, les conditions de vie étaient tellement terribles. Il n'y a qu'à regarder quoi, les états urbains, bref, je ne sais pas, mais à Landerneau, par exemple, dans quelles conditions les gens vivaient matériellement, que... J'ai quelquefois l'impression que c'est la pauvreté qui nous donne les moyens d'agir, quoi. Et que quand on finit un peu par être un peu trop gras, quoi, ben voilà, ben on finit par perdre de vue qu'on a été maigre à un moment. J'ai parfois cette impression-là. Mais surtout, ne pas penser que ce que tu fais, même si c'est une AMAP, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire. C'est de là qu'on tire les leçons pour éviter des obstacles, d'ailleurs, parce qu'on les voit, tu vois. Donc on se dit, voilà, faut pas... Tu vois, pendant une AMAP, moi, j'ai longtemps... Je participe au Miramap, au réseau, tu vois, des AMAP nationales. Ils ont un cercle de réflexion auquel ils m'ont associé. Et on analyse le panier à prix différencié ou le panier solidaire qui est dans certaines AMAP. Quoi. Les gens achètent leurs courses et mettent 10 euros de plus, je ne sais plus exactement les sommes, mais pour qu'on fasse des paniers gratuits ou des paniers à moins cher. Et ben, c'est très bien, la volonté elle est excellente et on ne peut que souligner ça. Mais seulement quand on analyse la chose, ce n'est pas autre chose que de la charité modernisée. Et il faut juste le savoir. Moi, tu vois, il y a 10 ans, j'étais incapable de faire la charité. Je faisais de la politique, je ne voyais pas pourquoi je faisais la charité. Et ce travail de recherche là, de ce qui nous amène à vivre ensemble et de comment on peut améliorer la vivre ensemble, le vivre ensemble aujourd'hui, là, m'a amené, alors c'est paradoxe, tu vois, à faire la charité, à être capable de la faire. Parce que, tu donnes une pièce à quelqu'un, mais tu lui dis merci à ce quelqu'un. Tu lui donnes une pièce et tu lui dis merci. D'ailleurs, tu vois sa gueule, il dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Et en fait, il te rend service, le mec à qui tu donnes quelque chose. Et dans une AMAP, quand tu donnes un panier à quelqu'un, il te rend. C'est lui qui te rend service en prenant le panier. Parce que donne quelque chose à quelqu'un qui te tourne le dos et qui se barre, eh ben tu vas voir la gueule que tu vas faire. Et je peux te dire, pour l'avoir vu, que dans les camps de réfugiés, on amène de la nourriture, les mecs ils te regardent, ils regardent la nourriture et ils se barrent. Et là tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs-là ? Ils n'ont rien, ils sont cons quoi. En plus je leur amène à manger et ils prennent pas ce que je leur amène. Et ben voilà ce qui arrive, tu vois. Et ça, il faut vraiment travailler là-dessus, sur toutes ces questions, ce que c'est que la charité, ce que c'est que la prise en charge par l'État. Et nous, on propose la sécurité sociale de l'alimentation, la socialisation de l'alimentation, c'est une prise en compte. Une prise en compte, alors, moi, notre métier à nous, on va dire, c'est dans les comptes de la ferme. Voilà, donc c'est une prise en compte très matérielle. Mais c'est aussi une prise en compte générale, tu vois. Quand tu es bénéficiaire de quelque chose, tu peux pas le refuser. Et quand tu le refuses, ça se passe mal. Je te dis encore une fois, si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas, ça se passe très mal. Et pour celui qui a donné, et puis en général, on finit par te retrouver en disant « Mon pote, là maintenant c'est fini, tu vas retourner dans ton coin. » Quand tu es destinataire de quelque chose, quand je fabrique un produit, quand je fais du lait, du beurre, ou que tu fais du cidre, que je te le propose, que tu en es destinataire, mais tu as le droit de le refuser, et, tu vois, on n'est plus dans le même état d'esprit. Tu viens me demander comment je l'ai fabriqué. Bon. C'est exactement ça, on cotise tous ensemble et on a une caisse qui va dire telle et telle pratique on en veut, telle et telle pratique on n'en veut pas. Alors après par contre, là je reprends le premier bâton qui était le mien, venez pas me trouver en me disant demain tout le monde va bouffer bio, parce que là je ne suis pas absolument pas d'accord. Ça, on est sûr de ne pas y arriver si on commence comme ça. Si vous allez à Kerlerne dire aux gens demain on va bouffer bio, et ça est valable dans tous les quartiers, si vous arrivez avec votre bâton de pèlerin, et moi j'ai produit en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique pendant 40 ans, que les choses soient claires, et en 79 le marché qu'on montait c'était même avant l'installation du cahier des charges, donc moi j'étais à Nature et Progrès pour tout vous dire, donc je ne peux pas être soupçonné de... On peut juste me dire que je crache un peu dans la soupe, c'est tout, mais ce n'est pas de mauvaise intention, c'est simplement que c'est clivant socialement et économiquement clivant, et ça distingue. Alors, ici je connais pas Cartier-Guérin un peu tout de même, je sais pour lire dans les journaux comment vous vous activez, je suis venu deux ou trois fois au patronage, c'est remarquable ce que vous faites, mais il y a des quartiers, je pense à Montreuil, à Paris par exemple, où se revendiquer des coopératives alimentaires bio et tout ça, c'est un moyen de distinction. Alors, on sait tous très bien que la distinction, on y aspire quoi. Alors après, si tu dis tout le monde en bio, alors déjà, les mecs, eux, qui se distinguent parce que leurs revenus sont trop faibles, ils vont pas t'écouter trop. Puis en plus, tu en as voir qui tous derrière en disant, bah, si tu donnes la bio à tout le monde, finalement, c'est pas trop trop cool, quoi, ton affaire. Je te jure qu'il y a des fois où, ça fait 10 ans qu'on bosse là-dessus, il y a des fois où tu rentres chez toi, tu dis, putain, tu prends ton crayon, ton papier, tu marques ça pour pas l'oublier, parce que tu as à peine cru des choses que tu as entendues. Combien de fois on a entendu, putain, mais les pauvres, pourquoi vous emmerdez avec eux ? Ils ont, au lieu d'acheter un téléphone portable, ils n'ont qu'à acheter de la bonne bouffe. Si c'est pas du mépris de classe, et j'ai entendu ça dans les AMAP, mais pas que dans les AMAP, partout. À la Confédération Paysanne, avant-hier, le gars s'est excusé. Mais bon, n'empêche que c'est le premier réflexe, quoi. Eh, les pauvres, avec leur pognon, ils n'ont qu'à acheter de la bonne bouffe. Et après, ils n'ont qu'à aller loger dans la rue, se démerder pour trouver du boulot sans téléphone portable, etc., etc., etc. Voilà. Bon, c'est comme ça. Je suis désolé d'être un peu brutal comme ça, mais tu m'as tendu la perche.
On est vraiment sur un droit à l'alimentation pour toutes et tous, quoi.
Ben, ça fait partie des aspirations. Le droit à l'alimentation, il existe. La France a signé en 1948 et à deux reprises après des documents qui obligent la France à mettre en place le droit à l'alimentation dans sa législation. Or, il n'en est jamais question à aucun endroit. Donc moi, je ne suis pas spécialiste des questions de droit, mais on a des gens qui bossent avec nous qui sont sur ces questions de droit, là. Et voilà, ça aussi, c'est des revendications qu'on pourrait tous avoir, tu vois. Un droit à l'alimentation. Comme on a, avec le même résultat, je l'espère pas, mais comme on a un droit opposable au logement, j'espère qu'on aurait des résultats meilleurs. Hein. J'en suis pas convaincu, c'est pour ça que le droit, quelquefois, c'est un peu limite. Mais voilà, on a signé et on ne l'applique pas.
Je me disais que peut-être c'était le moment de présenter aussi le week-end prochain à Quéréderne, le 5 octobre. Il y a, je ne sais pas, il y a un film qui s'appelle Le goût des autres qui va être passé.
La part des
La
autres.
La part des autres.
Le goût des autres, je crois que c'est un autre.
C'est
un autre film.
Ouais. J'ai pas... Exact.
Voilà, La part des autres. Donc c'est un film qui a été fait, réalisé dans le cadre du projet Accessible dont Jean-Claude a parlé, je pense qu'on va peut-être parler tout à l'heure encore un petit peu. Donc on organise le festi-marché avec le CIVAM, justement, c'est un petit marché de producteurs, c'est un petit peu aussi histoire de mettre un petit peu en avant ce projet Cabas des Champs, et puis aussi de réfléchir autrement sur une journée au sein du centre social, puisqu'on va aussi presser des pommes, récupérer 300 kilos de pommes, on va faire du jus de pomme pour les centres de loisirs, pour qu'on ait un petit peu notre petit stock pour toute l'année, et puis pour quand nos amis partenaires viennent nous rencontrer, et puis pour offrir aussi, pourquoi pas, mais pas beaucoup, on va quand même en garder beaucoup pour nous. Donc c'est la deuxième édition, et donc il y aura tous nos producteurs du Cabas des Champs, et puis certains autres aussi producteurs. Alors je sais qu'on est en concurrence entre guillemets avec le marché, les 40 ans du marché bio de Quéréderne qui se passera à Quérinou. donc voilà, vous pourrez quand même venir manger, en tout cas prendre un petit complément de vos courses que vous aurez fait le matin ou dans l'après-midi. C'est assez complémentaire, vous pourrez voir d'autres personnes et d'autres producteurs. Et donc La part des autres, c'est à 17h. Suivi d'un échange quand même. Donc La part des autres, c'est vraiment sur ce projet accessible là, les terrains d'expérimentation qui ont été observés durant ces deux ans, puisque avec le réseau CIVAM, du coup j'en parle un petit peu, hein. Avec le réseau CIVAM, on se rencontrait avec différents territoires. Il y avait l'Occitanie, il y avait la Drôme, il y avait Paris, la Vendée et Clermont-Ferrand. Donc tous ces territoires avaient des projets en rapport avec l'alimentation sur le Finistère. Le CIVAM du Finistère avait choisi de mettre en avant et d'observer justement l'initiative Cabas des Champs. Et de là, il y a un réalisateur, Jean-Baptiste Delpias, et puis son collègue Olivier Paillage. Voilà. Parce qu'il y avait un autre qui avait commencé, mais qui avait Robert Genoux, qui avait ensuite pas pu aller jusqu'au bout. Et donc ce film raconte un petit peu toutes ces initiatives et met aussi en avant la parole des agriculteurs et leurs difficultés. Et justement les difficultés d'approvisionnement et les questionnements que ça leur donne sur comment nourrir les gens et comment finalement, ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, comment ne pas nourrir qu'une partie de la population, quoi. Donc voilà, c'est un film qui dure 54 minutes et vous pourrez découvrir différentes initiatives sur ce domaine là si vous voulez aller un peu plus loin que l'émission d'aujourd'hui, quoi. Bien sûr, vous êtes invités tous à venir. ça faisait invitation quand même quand je t'ai parlé. Vous êtes vraiment invités
à venir samedi,
voilà.
Moi j'ai vu des extraits parce qu'il n'avait pas été diffusé en entier là cet été, c'est vraiment super, notamment les témoignages des vieilles du quartier de Quéréderne que j'ai trouvé assez chouette, vraiment hyper intéressant. Et il y a beaucoup de choses autour de l'aide alimentaire aussi, dans les extraits que j'ai vus en tout cas.
Oui, c'est vrai que là, c'est pas le lieu pour en parler, parce que l'aide alimentaire, a priori, à Place Guérin, ça doit pas être le premier vecteur d'alimentation. Enfin, j'en sais rien, je dis ça a priori comme ça. Mais quand on s'intéresse à la question de l'accès à l'alimentation, une des premières choses que l'on a constatées, c'est que aujourd'hui, en France, si tu n'as pas de revenus suffisants, ce qui correspond à un nombre important de nos concitoyens, si tu n'as pas de revenus suffisants et que tu veux te nourrir, il n'y a pas de problème, l'État te donne l'aide alimentaire. Alors on dit, c'est bien, quoi, on te file de l'aide alimentaire. Sauf que l'aide alimentaire, on est allé à sa rencontre, on a mis un certain nombre d'années, on a commencé en 2011, on a fait le tour des boutiques qui distribuent l'aide alimentaire. D'abord, c'est considéré comme une production agricole, c'est un acte agricole, donc c'est dans le code rural, c'est marqué. Vous faites du blé, du maïs, c'est de l'aide alimentaire, donc c'est quand même assez impressionnant de voir que, c'est, je sais pas moi, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais un métier qui ne réussit pas à ses objectifs et à qui on donne en plus la mission de combler le trou qu'il a creusé, quoi. Grosso modo, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Et l'aide alimentaire, c'est totalement destructeur. Mais c'est vraiment une violence absolument inimaginable. Et je pense que peu de gens le savaient, en tout cas, moi, je le savais pas. Très peu de gens le savaient. Très peu de gens l'admettent encore, maintenant. Et c'est de cette critique de l'aide alimentaire qu'on est passé à la question, la volonté de nourrir tout le monde. C'est, en fait, quand vous êtes amené... Ça, c'est un constat qu'on fait là maintenant. Là. Je n'aurais pas parlé comme ça il y a 2 ans. Quand vous êtes amené à faire de l'aide alimentaire, que, alors, institutionnelle, comme c'est fait aujourd'hui, c'est quand même 8 millions de personnes aujourd'hui en France qui, à un moment ou un autre dans l'année, dépendent de l'aide alimentaire. 4,5 millions tous les jours. Et c'est les chiffres du ministère, hein, ce n'est pas les chiffres des gauchistes. Hein. Et c'est aussi un certain nombre de droits qui ne sont pas réclamés, des gens qui n'en peuvent plus, qui ne réclament plus l'aide alimentaire, sinon ils en ont ras le cul. C'est aussi, reconnaissons-le, 60 000 minima et probablement 100 000 bénévoles qui font cette distribution d'aide alimentaire, pour qui c'est aussi violent de faire de cette distribution. Bon, on en parle dans le film, moi je ne vais pas rentrer dans le détail. Et s'il n'y avait pas ces 100 000 personnes à faire du bénévolat, le système de production agricole ne tiendrait pas. Parce que le système de distribution agricole, il défiscalise à peu près 400 à 450 millions de volume alimentaire tous les ans par l'aide alimentaire. Et la distribution, tous les gros couilles qui s'en mettent plein les poches, là, les Leclerc et compagnie, ça y est, avec la nouvelle loi Garot qui était un socialiste, rappelons-nous tout ça quand même, et gardons ça socialiste, enfin, en tout cas le mot était là, du parti socialiste, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Eh bien, il a fait une loi qui permet à toutes ces grandes surfaces de gagner de l'argent avec leur surplus qu'elles étaient obligées de payer. Elles étaient obligées de payer avant pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, elles gagnent de l'argent avec en défiscalisant. Et elles refilent le bébé au Resto du Cœur ou autre, qui, eux, sont obligés de les distribuer. Et quand ils ne peuvent pas les distribuer, ils sont obligés à leur tour de les détruire. Enfin bref, c'est un merdier innommable, l'aide alimentaire, sauf que c'est structurellement la visée politique actuelle. On est en train de constater l'augmentation est fantastique des gens qui bénéficient de l'aide alimentaire. Les politiques publiques ont enregistré ça et on suppose, moi là je vais faire un coup de parano, pas trop, parce que les parano ont aussi des ennemis, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un projet politique qui est de séparer la société entre ceux qui auront les moyens de survivre aux catastrophes économiques et environnementales à venir et ceux qui seront d'un côté sacrifiés, quoi. Eh bien, ça y est, là, on y est. L'aide alimentaire, pour moi, est un des marqueurs de ce partage-là. Et je pense que dans 10 ans, avant peut-être même 10 ans d'ici, il y aura 12 millions de personnes pour qui on dira « Taisez-vous, vous avez l'aide alimentaire ». Et moi, je participerai, enfin, je serai, mais Hélène encore et Baptiste, ils y seront encore, je pense, en tout cas. Ils participeront en tant que producteurs, quelle que soit leur adhésion syndicale ou quoi que ce soit. On cotise, ça s'appelle des cotisations volontaires obligatoires, d'ailleurs, c'est assez marrant. On cotise à tout ce système-là et on paye des impôts qui vont là, quoi. Bon, il y a donc une partie du film qui est une critique de l'aide alimentaire. Et puis, bah, tu le disais, après, ça dépasse largement ça. Et pour se sortir de ce misérable constat-là, il faut vraiment avoir affaire à des gens comme on a affaire à Kéréderme, quoi. Dont la première préoccupation...
Bien, Jean-Claude, parce qu'il arrête pas de dire qu'on est bien.
Mais votre première préoccupation, ça a été de dire « on veut pas de l'aide alimentaire ». On ne veut pas d'une épicerie sociale, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela, on veut autre chose. Et vous êtes allé chercher autre chose en partant de l'idée que vous ne vouliez pas de l'aide alimentaire. Mais nous, quand on a entendu ça, on s'est dit, bon Dieu, mais c'est avec eux qu'on va bosser, quoi. Parce que nous, on veut la même chose. Voilà, c'est ça. Et c'est très rare en France. Hein. Dans le film, il passe, moi je l'accompagne, là, il passe 2 fois par semaine dans toute la France. Il y a 2 choses qui sortent. Il y a 54 minutes de projection. Il fait 1h20 sur le DVD. Il y a 54 minutes de projection en public, et il y a 2 choses qui ressortent, alors que nous, on a travaillé pendant 10 ans, on aurait envie de parler de 1000 choses, il y en a 2 dans le public qui, quand ils posent des questions, c'est l'histoire de la sécurité sociale de l'alimentation, alors qu'on n'a pas travaillé dessus jusque les 2 dernières années, que, tu vois, je t'entendais tout à l'heure, quelquefois on est en peine d'expliquer ce que c'est, mais quand on lâche ça, c'est moi qui dis ça, le cinéaste, oh, il a dû trouver ça formidable, il a mis ça, puis en presque conclusion du film en plus. Alors les gens, ils disent, mais c'est quoi ce truc-là? Parce que pourquoi? Ben parce que ça t'oblige à lever ton regard, quoi. Voilà, c'est tout ça, c'est tout d'un coup. Et parce que il y a tout l'aide alimentaire derrière qu'on critique abondamment, et là, les gens tombent des nues, quoi. Ceux qui n'ont jamais eu affaire à l'aide alimentaire, ni comme bénévole, ni comme client, ni comme bénéficiaire, ben là, tout d'un coup, ah, pas que, c'est vrai, ça n'est pas ça. Alors, mais nous, il y a bien autre chose dans ce film dont on voudrait parler, sur la méconnaissance entre les agriculteurs et les mangeurs, quoi, et ceux qui mangent, sur l'appauvrissement des deux côtés, quoi, sur tout ça. Et puis de tout ce qui est en route, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui existe déjà et qui permet de dire ben, la sécurité sociale de l'alimentation, elle est possible. Tout ce qui existe déjà qui dit que, par exemple, dans les cantines, on voit bien qu'il y a des choses qui sont travaillées par quelquefois avec difficulté par les élus, mais demain, un service public de l'alimentation, ça pourrait être des cantines ouvertes 7 jours sur 7. Pourquoi pas, tu vois, c'est une idée, pourquoi pas. Les bâtiments sont là, les savoir-faire sont là, pourquoi pas. C'est un service public comme ça qui pourrait être institué. Et puis sur l'entreprise, là, ben, je sais pas, des nouvelles, si vous avez des oreilles un peu plus fines que les miennes, mais moi j'ai entendu ça, les entrepreneurs, alors il y a... Il y a des artisans, des gens qui ne s'appellent pas entrepreneurs, mais aujourd'hui, la mode est la Startup Nation. Tu as un camion et tu vends 300 sandwichs et tu es un entrepreneur. Mais c'est phénoménal. Moi, ça ne m'est jamais venu à l'idée. J'aurais eu 10 salariés que jamais je me serais appelé entrepreneur. C'est un truc qui... Bon, bref, l'entreprise, voilà. Il y a des gens qui commencent à se dire on va pas pouvoir continuer à presser le burnou, quoi. On va pas pouvoir continuer à presser le chupen et les citrons. Il faut qu'on change notre façon de faire de l'entreprise. Et alors, c'est pas sur cela qu'il faut compter, mais quand tu entends cela dire ça, tu te dis peut-être que j'ai une chance tout d'un coup, tu vois, de réhabiliter la production, de faire en sorte que la production profite à tout le monde, soit vraiment parce que le salaire pour tous, ça paye pas à un travailleur indépendant, enfin ça parle pas à un travailleur indépendant, hein. Ça c'est des débats dont on a passé des heures et on va continuer à des heures à discuter de ça. Donc la proposition du réseau salariat et de Frio. Il y a un groupe de paysans, d'ailleurs, dans le réseau salarial, dont je fais partie, quoi. Donc il y a cet obstacle-là que... Comment tu préserves l'initiative individuelle, personnelle, de celui qui a un peu plus de vitalité que les autres, à un moment dans sa vie, et puis qui veut proposer quelque chose que les autres ne font pas? Comment tu préserves ça sans le noyer dans un grand système que... Je sais pas comment on va dire ça, je vais pas employer de mots qui vexeraient l'autre. Voilà, il y a donc tout ça, mais c'est fantastique le travail qu'il y a à faire, quoi. Tous ensemble, et il n'y a pas un d'entre nous qui a une réponse précise à quoi que ce soit, d'ailleurs. On a juste que des enseignements à apporter, voilà.
Moi, ça me faisait penser à quelque chose, c'est très bien si chacun donne son avis là-dessus, moi je sais pas ce que vous en penserez, mais Paul Ariès, il a écrit son dernier bouquin, c'est La gratuité, il parle de la gratuité comme un outil justement de... Alors c'est pas une gratuité qui vient de la pub, évidemment, c'est une gratuité qui vient de la socialisation, des marges, des profits. Et donc en fait la question alimentaire elle est traitée dans le bouquin, mais en fait tout ce dont il parle c'est uniquement de choses qui existent déjà, c'était son angle d'attaque en fait, il a cherché à faire un truc comme ça avec des exemples sur le territoire français et donc par exemple des cantines gratuites et lui il parle aussi de l'eau, des transports, des obsèques. Il y a pas mal de choses, ça balaye assez large et finalement ça généralise un peu ça. Alors peut-être il y a des différences, je sais pas si vous avez une idée d'un projet comme celui de Paul Ariès, j'en sais rien, mais en tout cas c'est super intéressant se dire, et l'eau par exemple sur la consommation des ménages, il propose que ce soit une tarification progressive à partir de... Voilà, que le minimum vital pour tout le monde, comme un bien commun, soit gratuit, et puis qu'après, ça devienne tellement cher que finalement, les riches payent largement assez pour financer toutes les consommations de tout le monde, en fait. Voilà.
Faire attention, parce que les pauvres vont le gaspiller si c'est gratuit.
Ah ouais, mais ça, non, mais sans déconner, c'est extrêmement sérieux. Non, mais je ne sais pas si ça va te rassurer, mais Ariès, par exemple, au séminaire final du projet Accessible en mars à Paris, là, il est un de ceux qui, par vidéo, est intervenu pour nous parler de la gratuité, justement, parce que C'était un des horizons qu'on voyait, nous, et je considère qu'il faut toujours prendre en compte, quoi, la gratuité des services essentiels.
Et dans le réseau salariat, il y a dans l'idée aussi, il y a aussi une caisse de gratuité, justement autour du logement, du transport, de l'eau, et c'est la même idée aussi, c'est que tu as des paliers, et plus tu consommes, plus l'eau est chère. Il y a cette idée-là aussi. Ouais.
Alors, où on en est ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de réagir autour de la table ? Ou de redire comment on vous joint sur vos collectifs respectifs, peut-être ? Ou...
Le problème, je crois qu'il est là. C'est quoi la route, quoi ? Et du coup, ça veut dire qu'on est dans un monde où le pétrole, où la circulation, elle est infinie. Si on ne rapproche pas géographiquement les espaces de production et de consommation, les producteurs, les mangeurs, on ne s'en sort pas. Il faut vraiment être à proximité. Et si on est à proximité, comment on évite l'écueil de faire des îlots où la campagne est jolie, on mange bien et ceux qui vivent là ont des moyens. Du coup, les producteurs, s'ils veulent acheter des terres là, elles sont chères. Et donc, les prix des produits sont chers, donc s'adressent à des personnes qui ont des moyens. Et à contrario, des terres pas chères, moins bonnes, vont être cultivées. Là, les choses, on les voit aujourd'hui comme ça, hein, réellement. Quoi. Parce qu'on est concerné. On n'a pas réfléchi à ça quand on s'est installé. Et aujourd'hui, on le voit. Et du coup, on trouve dans la sécurité sociale alimentaire, ce dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, là, le truc qui fait du bien de se projeter dans autre chose.
Voilà. Ouais, parce que la grande question pour un paysan, c'est effectivement, on l'a entendu plusieurs fois, c'est je nourris qui ? Et on s'est posé la question. C'est ben ouais, nous on nourrit qui ? Et on a plein d'exemples. Alors on s'en prend plein la tronche en fait régulièrement. Alors d'abord par se rendre compte que l'agriculture n'a pas été faite pour nourrir les gens. Aujourd'hui, elle n'est pas faite pour ça. L'agriculture a été développée pour fabriquer une matière première industrielle. Alors ça peut être du blé, ça peut être du lait, ça peut être... qui va ensuite être prise en charge par des unités de transformation qui vont ensuite fabriquer quelque chose qui va peut-être finir dans la bouche de quelqu'un et au final on peut faire le cycle jusqu'au bout. Et donc on n'est plus considéré comme des gens qui nourrissent les autres. D'une part, alors quand on fait du cidre, on se pose aussi la question, parce que ça nourrit pas, ça peut être festif, ça peut aussi être dramatique de faire des produits alcoolisés. Mais en gros, on est sur une campagne qui ne nourrit plus les gens. Et il y a un exemple dernièrement qui nous a vraiment sauté aux yeux, c'est qu'il y a une loi, ou je ne sais pas si c'est un règlement qui est sorti, qui dit que les cantines doivent proposer des produits locaux et bio, un certain taux. Donc on a été démarché par quelqu'un en costard qui est venu pour nous dire « Ah ben moi je fais partie d'une cuisine centrale, j'ai peut-être un contrat avec une localité pas très loin, et est-ce que vous pouvez proposer les produits qui suivent ?» Et on se rend compte que bon bah tout ce qui est produits laitiers ça va être pasteurisé, donc les paysans ne peuvent pas fournir ça, ça ne peut être que des grosses unités qui vont produire ça. Les fruits doivent être calibrés. On ne peut pas produire ça. En tant que paysan, on ne calibre pas, nous. Les jus de fruits doivent être en petit conditionnement. On ne fait pas ça non plus. Donc en fait, alors d'abord, nous qui nous disons on veut relocaliser, on veut nourrir les gens, on se rend compte que les règlements nous empêchent de le faire, sur ce biais-là. Et ensuite, quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des champs de maïs à perte de vue. Et donc, au final, la conclusion, c'est qu'on est dans un espace rural, une commune rurale, où on est incapable de nourrir les enfants de la cantine.
C'est... Alors, avant de nourrir les villes...
Ouais. C'est clair.
C'est pas qu'il y ait une priorité, c'est que juste aujourd'hui, c'est de l'impossibilité. Il y a du boulot.
Mais... Sur cette question du local, il faut faire gaffe, quoi, parce qu'on pourrait très bien, on comprend bien, on partage toutes ces questions, la volonté d'avoir une agriculture plus localisée, je vois bien d'où ça vient. Mais ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas se créer d'obstacles sur le chemin qu'on veut, sur le but qu'on veut atteindre plus loin, quoi. Manger tous ensemble à la même table, qu'il ne manque pas des gens au bout du compte à la table, quoi. Sur cette route-là, il ne faut pas qu'on se crée des obstacles. Et je pense que si on ne fait pas gaffe, la relocalisation, c'est un obstacle qu'on va se créer. Il y a des tas de régions en France où ils mangeront que des pommes de terre, il y a des tas de régions en France où ils mangeront que du pain. Et nous, il y a des tas de régions dans le monde d'ailleurs, hein, où nous, on sera bien en peine de trouver du café, du thé, du chocolat quand on en sera là. Donc je pense que la volonté de localisation, en fait, la volonté de s'intéresser au territoire, à l'espace de vie, à l'endroit où tu vis, elle est intéressante, mais si tu as là, en même temps la volonté d'internationaliser l'affaire, quoi, grosso modo, pour un paysan, c'est bien que tu t'intéresses à ce qui se passe autour de chez toi si tu es adhérent à Via Campesina. Et si tu as Ibrahima Koulibaly qui vient une fois de temps chez discuter avec toi, ou si tu vas discuter avec lui. Quoi. Si cette conscience existe en permanence, que nous, notre agriculture, et quelle que soit la manière dont on va la pratiquer, elle est extractiviste. C'est-à-dire qu'on va chercher, c'est la prolongation de la colonisation d'une manière que personne ne perçoit vraiment, on va chercher une partie des matières premières dont tu parlais dans des pays dans lesquels on détruit la paysannerie, on leur exporte ce que l'on n'a pas pu absorber ou vendre chez nous, ce qui ne va pas à l'aide alimentaire par exemple, c'est aussi à l'exportation qu'on l'envoie, et là, de retour, on détruit le système économique et on exporte en plus le modèle, tu vois, social, de la paysannerie modernisée avec des outils, avec d'énormes capitaux mobilisés, avec une chaîne de transformation, avec des postes, le travail divisé, etc. Tout ce modèle-là, on l'exporte. On voit chacun qui voyage va voir ça. Sauf que dans la plupart des pays, moi je connais un peu le Sénégal, dans la plupart des pays, il n'y a pas les budgets que nous on a mis pour en arriver là pendant 30, 40, 50 ans. Et encore aujourd'hui, on a protégé notre agriculture et c'est comme ça qu'on a réussi à créer ça. Eux, c'est fini, c'est mort, donc il n'y aura plus que nous à exporter. Et donc, cette notion de local, là, tu vois, il faut vraiment... Moi, je me méfie, quoi. J'en connais trop de mes collègues, et Fred, il en connaît quelques-uns, qui font de la vente directe, qui, dans leur petit magasin, qui ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Tu leur dis, bah, venez à Kéréderne au marché, ils disent, ah, ouais, ça va, moi, j'étais à Morlaix la semaine dernière, ou j'étais à Brignogan, au bord de la mer.
Non, moi, je l'ai eu, le mail, pour venir à Kéréderne. On n'a pas les moyens de payer le gasoil pour aller jusqu'à...
Mais d'accord, mais on est bien d'accord. Mais là, tu mets le doigt sur ce qui nous rassemble.
Ouais,
on est bien d'accord. Mais moi, les collègues dont je te parle, c'est qu'ils veulent même pas en entendre parler. Ils font même pas l'analyse. À choisir entre une dépense en gasoil pour aller à Brignogan l'été et vendre tes produits, ou à Kéréderne toute l'année, eh ben, ils auront choisi d'aller à Brignogan, crois-moi.
Il y a une question de volume aussi, effectivement. On s'est rendu compte que quand certains paysans s'y retrouvaient pas, et c'est pas à eux de faire du social, quoi. Donc ils ont arrêté. Donc c'est pour ça aussi que c'est important dans le projet. On a vraiment voulu qu'il y ait cette mixité, parce que finalement, le panier moyen, quand on a un prof du lycée d'à côté, ou quand on a été voir les instituts par exemple, hein, les instituts de l'école, on les a fait venir, on leur a proposé, on les a pas venir, on a forcé personne, sont venus, mais finalement eux nous permettent quand même d'avoir un certain volume pour pouvoir continuer ce projet là. Si on n'avait pas des gens qui ont quand même un peu de pognon pour acheter un peu en quantité, bah ça permettrait plus là. Si on était là juste sur des gens qui achètent certains que des pommes de terre à 50 centimes le kilo, non, ils s'y retrouveraient pas, quoi. Et puis aussi, on essaie de s'arranger aussi avec les producteurs et on trouve des solutions. Y a des gens, on fait presque du covoiturage de fromage, puisque le gars Alain Jacob qui nous livre le fromage, c'est pas toujours lui qui le livre, c'est quelqu'un qui passe par les Monts d'Arrée, puis qui revient sur Brest, qui bosse dans les Monts d'Arrée, qui vient et qui nous l'amène. Donc c'est pas forcément, on demande pas forcément aux paysans de venir, quoi. Alors c'est intéressant qu'on le voit quand même de temps en temps, sinon on est dans quelque chose de complètement impersonnel et c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même des solutions. Je suis sûr que si on peut trouver quelqu'un qui ramène du cidre ou du jus de pomme d'argol, qui fait la route tous les jours et qui serait d'accord, quoi.
Mais t'as raison, l'idée elle est aussi dans la rencontre. Voilà. Et du coup, déjà on connaît même pas nos voisins. Ouais. Et pourquoi le problème il est là, pourquoi je dis c'est cher? C'est parce que tout l'argent qui rentre dans la ferme, il part à rembourser les banques pour acheter la propriété, pour acheter les terres, ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Le truc de la propriété privée, il est primordial dans la construction des prix de l'alimentation aussi. La collectivisation par rapport à la sécurité sociale alimentaire, nous, c'est comme ça aussi que ça nous a touchés, c'est que ça permet de détacher de la propriété privée et de réfléchir qu'est-ce qu'on achète, pour en faire quoi, ça profite à qui. Et ça paraît éloigné du problème de l'alimentation, mais pour moi, c'est primordial aujourd'hui. C'est vraiment l'accès à la terre, le foncier. Se préoccuper des paysans sans terre au Brésil, c'est bien, mais il y en a plein en France qui sont sans terre parce que les terres, elles partent à l'agrandissement et pas à des gens qui auraient des projets différents pour nourrir autrement aussi. Quoi. Casser vraiment ça, je pense que c'est pas... C'est peut-être sur les ronds-points que ça se joue, quoi.
Et on reste convaincu sur la relocalisation, d'abord parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sur place. Et il y a des régions qui se retrouvent effectivement à... Alors, prenez l'exemple de gens qui ne mangeraient que des patates parce qu'ils sont dans une région de patates, mais il y aurait aussi des gens qui boiraient que du vin. Parce que si on se balade en Loire-Atlantique ou si on descend vers Bordeaux, on voit des vignes à perte de vue, on dit « Ah bah dis donc,
il y aura des gens qui vont déménager là, je pense. » Hein.
Le petit-déj doit être serré chez eux, quoi. Ça... et je pense que... On peut, et pour moi, ça reste un effet de l'industrialisation, hein, que ce soit qu'on trouve un vignoble joli ou pas, c'est une zone d'industrialisation agricole, de fait, puisqu'on a spécialisé, et avec tout, alors, et qu'on exporte effectivement, hein, on l'a vu, nous on avait eu cet exemple-là avec la quinoa, où on a réussi, en ayant toute la bonne volonté du monde en tant que bio mangeur à vouloir de la quinoa et à dire c'est génial en Max Havelaar, etc. Et en fait, à se rendre compte que là-bas, les gens ont viré toute leur culture vivrière pour faire que de la quinoa à perte de vue. Bah, en fait, c'est comme chez nous, quoi. C'est, alors, sans forcément les mêmes budgets, effectivement, les mêmes capitaux, mais on est dans le même piège. Et relocaliser, c'est pas forcément être quelque chose de complètement radical à dire tout vient de chez nous, mais au moins rééquilibrer les choses et faire en sorte qu'on soit capable de se nourrir d'abord avant d'aller donner des leçons aux autres.
Quoi. Mais le nous, il est évidemment... tu disais tout à l'heure la dimension planétaire, elle est là, quoi. Évidemment, c'est ça, c'est le nous global sur la planète. Parce que pourquoi il n'y a pas de maraîcher dans le vignoble bordelais ? Tu valorises pas tes poireaux comme du vin de Bordeaux, du coup les terres elles sont pas accessibles, quoi. Mais les Bordelais ils boivent pas effectivement que du vin, ça devient compliqué cette histoire.
Ouais, mais du coup il y a là qu'on trouvait la solution parce que jusqu'à présent il y a pas de vigne dans le Léon, en tout cas que je le sache, ils n'ont pas encore. C'est bizarre qu'un Léonard n'ait pas encore réussi à trouver un moyen de faire du Bordeaux. Mais et je vais vous donner. Savez-vous qui est le premier producteur de légumes bio en France? Cicat Saint-Paul-de-Léon. 50% des légumes bio en France sont produits par la Cicat Saint-Paul. C'est-à-dire que là, on a du souci à se faire sur la volonté de relocaliser, de donner du bio dans les cantines et tout. Tu disais tout à l'heure, tous les obstacles qui se présentent à toi, eux, c'est pas de problème avec ça, tu vois. Donc,
je pensais, ça passe.
Voilà, je pensais aussi à la Johanna Roland, à la maire de Nantes, là, que j'ai entendu dire un jour... dans une rencontre qu'elle allait créer une régie d'alimentation à Nantes. Je trouve ça extraordinaire. Hein. Je ne sais pas où ils en sont, mais je trouve ça extraordinaire comme idée. Quoi. Remettre l'alimentation ou mettre l'alimentation en régie dans une municipalité de la taille de Nantes, si elle a cet objectif-là et qu'on peut l'aider à le faire, pas de problème. Sauf que à Vannes, ça existe. Ouais. Ben, ça doit exister un peu partout. En général, quand tu découvres un truc comme ça, tu t'aperçois qu'il y en a un peu partout. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des choses qui existent déjà. Quoi. On ne part pas de rien. Il y a tout un tas de choses qui existent déjà. Et seulement, le problème, c'est que moi, je vois à peu près ce qui va lui arriver. C'est pas moi qui le vois, c'est qu'on sait comment ça va se passer. Tous les mecs qui font de la mâche, là, des grandes surfaces, des centaines d'hectares, des milliers d'hectares de mâche avec des produits... phytosanitaires, en veux-tu, en voilà, dans les grandes serres chauffées, là, ils en ont plein le cul, ils trouvent plus d'ouvriers pour ramasser leurs mâches, ils sont obligés de payer leurs ouvriers, donc ça commence à les emmerder, et puis les produits qu'ils utilisent pour désherber, les sols sont complètement pourris, et les produits sont de moins en moins intéressants, enfin bref, ils sont un peu dans la merde. Ils ont repéré le créneau, 2 ans de conversion en bio, c'est que dalle, c'est que dalle. Les terres, ça, je veux dire, il faut 100 ans éventuellement pour évacuer tous les restes dedans. Mais 2 ans, ils vont se mettre à faire de la mâche et des produits en bio dans les serres dans lesquelles ils faisaient leurs produits de merde, enfin leurs produits, pas de merde, mais leurs produits industriels. Et ils vont abonder la santé, ils vont abonder les systèmes de cantine de Nantes. Quoi. Et quand on lui a dit ça, elle a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, qu'elle me dit la dame. C'est des gens qui politiquement, normalement, sont un peu plus malins que toi. C'est pas vrai, toujours. Hein. Et ben lui, ben, il faut justement faire ce que tu disais tout à l'heure. Il faut réserver des terres. Il faut que vous interveniez, que vous leur piquiez leurs terres et leurs serres et que vous donniez aux jeunes qui servent. On rencontre, nous, des jeunes qui veulent s'installer. Pas assez, certes, mais on en rencontre. qui ont des difficultés à trouver du foncier, un élu conséquent qui veut faire une alimentation locale autour de, enfin, une ceinture maraîchère autour de sa ville, qui veut faire un service public de l'alimentation dans sa commune, eh ben, il doit aller jusqu'au bout et il doit faire une réforme foncière dans son autour. Et ça, quand tu dis ça, évidemment, mais je comprends pourquoi. Regarde ce qui est arrivé à Lula. Et tu sais bien que c'est impossible aujourd'hui une réforme foncière. C'est pas à l'ordre du jour. Il faudra bien que ça le vienne un jour. Mais là, pour le moment, c'est ça. Mais tu as parfaitement raison. Hein. Tant qu'on n'aura pas ça, c'est pas la peine de rêver au local, ceci, cela.
De toute façon, les garde-fous, il faut les prendre toujours en compte. Dire on base la sécurité sociale alimentaire sur la sécurité sociale de santé, directement a été pris en compte dans la sécurité sociale alimentaire, c'est pas pour alimenter les gros groupes. Alors que la sécurité sociale de santé, il n'y a pas eu ces garde-fous. Et aujourd'hui, l'argent qui a été mutualisé au départ pour construire ensemble des hôpitaux, quoi, ça part à la privatisation et ça rembourse aujourd'hui des médicaments dont les prix ne sont pas contrôlés. Donc c'est clair que sur la sécurité sociale alimentaire, il y a cette leçon-là aussi qui est tirée et qui dit c'est pas juste mettre des jolis mots, c'est qu'est-ce qu'on met vraiment en détail derrière.
Ah ben, là, ce que tu soulèves, ben, je pense que Catherine aurait pu t'en parler, c'est la question de la... Dis-moi le nom, j'oublie. Là, du conventionnement des produits que tu as à la sécurité sociale, quoi, et de santé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, on ne nous demande plus notre mot. Enfin, moi, j'ai la chance d'être en bonne santé. Le jour où je m'en soucierai, ça sera peut-être un peu trop tard. Quoi. C'est toujours pareil. Quand tu es bien nourri ou quand tu es nourri correctement, je pense que les questions d'alimentation ne te touchent pas. Le jour où tu as un problème, tu t'aperçois que c'est trop tard. Mais dans la sécurité sociale de l'alimentation, pour rentrer dans le détail, il faudrait une demi-journée. Mais il y a donc des organismes de conventionnement qui conventionneraient le producteur et le transformateur et le distributeur. Et là, nous, on considère que c'est à cet endroit-là que va se loger la démocratie alimentaire. C'est-à-dire que les gens qui vont venir là, c'est ceux qui vont être délégués. Tu disais tout à l'heure, on est en train de chercher quels sont les meilleurs moyens de délégation. Délégués par décider de ce qu'on va manger, de quel producteur sera... Amener, comme il y a des toubibs qui sont conventionnés, d'autres qui ne le sont pas, personne ne sera obligé d'être conventionné, mais ne pourra accéder à ces 120 milliards de sécurité sociale de l'alimentation. Ça fait 120 milliards, ce qu'on disait tout à l'heure, là, 5 euros par jour par habitant. Et ne pourront accéder à ces financements-là que des gens conventionnés. Et les gens conventionnés, il ne faut pas venir à la convention en disant il n'y aura que des bio, il n'y aura que des circuits courts, il n'y aura que des trucs comme ça, parce que là, il n'y a plus de démocratie. Il faut arriver, en prenant le risque de la démocratie, de trouver des gens qui disent ben, on va aussi conventionner un peu de Nutella, qui ne s'appellera plus Nutella, parce qu'on aura mis la main sur Nutella pour lui éviter que ça reste une entreprise capitaliste, mais qu'il y aura un petit quelque chose quand même, tu vois. C'est tout ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir la tête haut, il faut regarder haut. Et puis, sinon, mais c'est le local, moi, ça me donne toujours l'impression que je regarde à mes pieds. Mais je sais bien,
si on le voit, c'est parce
qu'on
le regarde. Donc.
Mais je l'ai pratiqué suffisamment pour savoir que je suis d'accord avec toi, que tu as raison. Mais quelquefois, comme quand tu parles, surtout à des gens, quand tu parles des gens de la ville, là, ils sont tout contents. Leurs petits paysans, quand tu es eux, le mec chez qui ils vont prendre le café le samedi midi, tu vois. Et là, aïe, aïe. Je dis, nous, on est contents d'aller à Quéralerne. Prendre le café à Quéralerne, ça, c'est une façon de localiser l'agriculture. Voilà. Une bonne façon de le faire.
On est contents d'aller aussi dans les Monts d'Arrée, moi, manger du fromage. Hein.
Moi, je suis contente que vous soyez toutes et tous venus. C'était chouette de vous entendre. On va devoir lâcher l'antenne parce qu'il y a une conférence gesticulée qui va commencer. La conférence gesticulée, elle s'appelle Saoul. C'est une personne en situation de handicap qui raconte pas mal de choses du quotidien et avec beaucoup d'humour. Et c'est vachement intéressant de prendre conscience en fait de nos privilèges de valides et tout ce que on ne voit pas en fait et qu'on n'imagine pas. Et je vous conseille d'aller la voir. Ce sera sous le chapiteau. Ça devrait commencer d'ici quelques minutes. Voilà, je vous remercie, c'était sympa.
Et puis
les gens qui ont envie de continuer à discuter avec vous, je pense que c'est possible.
Restez là
un peu. Voilà. Et on est bon ? Ouais ? Bon, ben. Salut, à bientôt.